paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Christian Page, bonjour.
Salut Bernard.
Ah, on termine cette semaine comme c'est notre habitude.
Oui. Avec... Écoute, je fais un aparté, je t'écoutais parler avec Luc Lavoie. Tu sais que le pot, ça c'est extraordinaire, ça favorise les contacts avec les extraterrestres et ça permet de mieux voir les soucoupes volantes.
C'est vrai? Ben raconte-nous ça. Est-ce que tu as eu une expérience?
Non, pas du tout.
Souhaites-tu nous raconter une expérience, Christian?
C'est pas vécu.
C'est pas. Ben oui. Non, mais tu sais.
Ah, les années 70.
Ah, il y en avait des secoupes volantes dans ce temps-là. Hein?
On en voyait.
Bon.
On développait toutes sortes de contacts.
Oui. Il se promenait dans ta tête. Hein? Il y en avait des petits bonhommes verts.
Oui, mais ça.
Bon. Quoique, je pense que pour les bonhommes verts, là, c'était plus le LSD, d'après moi. L'acide, non?
Oui, écoute, on a dû en voir beaucoup. On a dû en voir beaucoup là, durant la fin des années 70.
Woodstock, ça, hein? Woodstock, il y avait beaucoup de petits bonhommes verts qui dansaient sur la scène. OK, parle-nous de cette découverte majeure à Nazca, hein, Nazca au Pérou.
Voilà, Nazca, écoute, si je mentionne ce nom, probablement auprès des auditeurs, ça va éveiller toutes sortes d'images extraordinaires. Ce sont des figures qui ont à peu près 2000 ans, qui ont été gravées dans le sol du désert de Nazca. Quand je dis gravées, entendons-nous, c'est quand même une œuvre sur le plan technique assez facile à réaliser. Hein? Il faut savoir que cette région du monde est une région très aride. Il n'a pas plu dans le désert de Nazca depuis 10 000 ans.
Hein?
Donc, tu te rends compte, depuis 10 000 ans.
Oh.
Alors, la surface du sol est un peu brûlée par le soleil et les anciens peuples de Nazca n'ont eu simplement qu'à dégager la surface du sol pour laisser apparaître le sol, le sable plus blanchâtre en dessous de la couche brûlée, entre guillemets, et qui a permis comme ça de réaliser ces gigantesques figures. Il faut savoir, elles ont été réalisées il y a à peu près 2000 ans. Elles ont été effacées un peu de la mémoire des peuples de cette région andine jusqu'en 1927. Et là, en 1927, elles ont été redécouvertes parce que, crois-le ou non, on a envoyé des avions qui survolaient la Pampa, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, la Grande Plaine de Nazca, de Nazca. Et là, les pilotes ont été surpris de voir du haut des airs ces immenses figures. En fait, elles ne sont visibles qu'à partir d'une certaine altitude tellement elles sont gigantesques. Donc, tu comprends que pour les gens au sol, on ne voyait que des sillons dans le sable, mais c'est avec l'avènement de l'aviation qu'on a pu redécouvrir ces gigantesques figures.
Et on les voit toujours, là, hein, Christian,
rassure-moi. Elles font depuis 1994, ces figures, ces géoglyphes, comme les appellent les spécialistes, font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Mm-hmm.
Et tu comprendras que parce que ces images ou ces figures ne sont visibles que du ciel, dans les années 60, elles ont alimenté toutes sortes de controverses, toutes sortes de spéculations. Certaines perdurent encore jusqu'à aujourd'hui, et parmi lesquelles on retrouve le terrain d'atterrissage pour extraterrestres en visite. Donc, des extraterrestres auraient rendu visite aux anciens peuple des Andes, hein, notamment les Incas, et pour les guider, pour leur permettre d'atterrir aisément, les peuples locaux auraient fait ces gigantesques figures, un peu comme des balises sur un terrain d'aviation. Inutile de dire que cette théorie est mise à mal par les historiens et les archéologues. Hein. Jusqu'à maintenant, on sait que ces figures ont été conçues par deux peuples antérieurs aux Incas. Donc, on parle des peuples Paracas et les peuples Nazca. Et ces peuples vivaient aux alentours de l'an, il y a à peu près 2000 ans, donc autour de l'an zéro, en fait un peu plus tôt, entre moins 500 et plus 300 de notre ère. Et ce sont eux qui ont fait ces figures-là. Pourquoi? Les historiens l'ignorent, mais on avait quand même des hypothèses, dites hypothèses dominantes.
Mm-hmm.
On voulait que c'est... Tu te rappelles, il y a quelques mois, on en avait parlé, on avait trouvé dans la région des charniers avec des enfants, des squelettes d'enfants qui avaient été immolés dans des sacrifices.
Oui.
Alors, les historiens disaient probablement que la Pampa de Nazca était une espèce d'autel à ciel ouvert où les peuples faisaient des sortes de rituels, faisaient des défilés pour les dieux, et à l'issue de ces défilés, peut-être que l'on faisait des sacrifices humains. Et là, la grande découverte, c'est que cette semaine, les chercheurs de l'université de Yamagata au Japon ont révélé qu'ils avaient trouvé 143 nouvelles figures qui avaient été complètement oubliées. Pourquoi? Parce qu'avec les vents locaux, elles ont été un peu recouvertes par le sable. Ah. Et ce n'est que par de l'imagerie 3D, grâce à l'utilisation de drones, qu'il nous a été permis de retrouver ces 143 figures. Elles vont de 5 mètres à 50 mètres. Ce sont des figures gigantesques. Plus elles sont tardives dans l'histoire, autrement dit, donc plus jeunes par rapport à nous, plus elles sont gigantesques. Et ce que les historiens découvrent avec ça, c'est qu'elles ne couvrent pas seulement la Pampa de Nazca. On retrouve dans les montagnes qui avoisinent la Pampa de ces gigantesques figures et la présence de créatures ailées, de créatures fantastiques et de dieux vient ajouter davantage à l'hypothèse qui jusqu'à maintenant était celle dominante, à savoir que la Pampa de Nazca était bel et bien un endroit où les peuples se réunissaient, faisaient des défilés, des cortèges, à l'issue desquels on faisait des rituels pour les dieux et peut-être même expliquer les sacrifices humains dont les charniers ont été découverts il y a quelques mois.
Très intéressant. Très intéressant.
Oui, absolument.
Parlons de Ultima Thule.
On vit dans une drôle d'époque, hein, Bernard? Tu sais qu'aujourd'hui, le politically correct, on ne peut plus trop, je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais tu sais, on peut pas trop s'adapter les cultures. Et là, on voit qu'il y a des répercussions, des fois, un peu perverses à ça. Et c'est le cas de cette affaire d'Ultima Thule. Ultima Thule, rappelle-toi, c'est cette astéroïde qui gravite dans la ceinture de Kuiper, qui se trouve à peu près à 6,5 milliards de kilomètres de la Terre. Mm-hmm. Et en janvier dernier, la NASA a envoyé une sonde qui est passée à proximité d'Ultima Thule. La sonde, d'ailleurs, était pilotée par le Québécois Frédéric Pelletier, exact, avec lequel, je crois, tu t'étais entretenu.
Absolument.
Donc, il avait fait donc des manœuvres pour envoyer la sonde. C'était la sonde New Horizon, qui, en 2015, nous avait transmis des images rapprochées de la planète naine Pluton. Et là, cet astéroïde étrange, qui ressemble un peu à une quille, qui portait le nom de Ultima Thule, ben voilà que cette semaine, la NASA a annoncé qu'elle changeait le nom de l'astéroïde pour le nom de Orokot, qui veut dire ciel, dans un langage autochtone. Ce sont les autochtones Powhatan, ce sont un groupe associé aux Algonquins qui vivent en Virginie. Et comme je l'ai mentionné, donc ce nom veut dire ciel. Okay. Mais pourquoi changer Ultima Thule pour Orokot? Ben, crois-le ou non, la raison, c'est que il y a tout un groupe de gens qui se sont mis à manifester contre le nom de l'astéroïde pour la simple et bonne raison que le mot Thule a souvent été associé avec le Troisième Reich. Mais pas uniquement... Oui, c'est ça. C'est fascinant de voir les ramifications de l'histoire. Il faut savoir que Thule, déjà là, 300 ans avant Jésus-Christ, c'est un explorateur grec qui avait baptisé une île de l'archipel britannique. C'est ce qu'il disait. Cette île, il l'a appelée Thule. Et Thule, ça voulait dire un peu l'île du bout du monde. Et à ce moment-là, les historiens croient que même si l'explorateur grec parlait d'une île du groupe britannique, on pense plutôt qu'il faisait référence à l'Islande. Et là, ensuite, au Moyen Âge, le mot de Thule a été repris pour désigner à la fois l'Islande, le Groenland, et même dans des mythologies nordiques, ça signifiait aussi l'île du bout du monde. Tu vois, okay, un peu le genre.
C'est quoi le rapport avec le Troisième Reich?
Et voilà. Arrive là au début du 20e siècle, va se développer en Allemagne une espèce de groupement ésotérique, mystique, auquel vont appartenir Hitler, vont appartenir Himmler, donc des gens qui sont des fanatiques un peu de l'historique de la grande Germanie. Et là, on fait référence, on s'alimente à toutes sortes de courants de pensée. Et l'un d'entre eux, et tu vas probablement apprendre quelque chose, Bernard, et j'espère que les auditeurs aussi, on dit souvent, quand on parle des Allemands, on dit c'est la race aryenne.
Oui.
Mais d'où vient ce nom de aryen? En fait, elle vient d'un mouvement philosophique qui est né à la fin du 19e siècle et qui disait que la race qui gouvernerait le monde viendrait de l'île de Thule ou de Thule, et ce serait les Aryens. Et tu comprends que les nazis ont récupéré tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle la NASA a décidé de changer le nom.
Orokot. Merci beaucoup, mon cher Christian Page, à vendredi prochain.
Absolument.
Merci à Larry Dufresne, à Alexandra Marcoux et à Maryse Duchesneau, le super trio qui m'accompagne. Bonne fin de semaine, tout le monde!